Bonsoir, bonsoir Oscar Kopfen.
Bonsoir. Pardon.
Ça commence bien. Merci d'être à Bordeaux et donc de vous prêter à cette rencontre. On va faire connaissance un petit peu et avec votre dernier roman, mais peut-être aussi parler du premier. Et d'abord de l'éditeur, puisque vous êtes chez Finitude, qui est un éditeur qu'on connaît bien ici. Hein. Avoir envoyé par la poste votre premier manuscrit à Finitude ?
Par affinité littéraire, tout simplement. Ouais, parce que j'avais lu la première revue Capharnaüm, le numéro 1, qui avait été donc édité par Finitude il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et j'avais trouvé des textes inédits d'Abby, Guérin, Hivernaud, qui sont un peu des auteurs inconnus au bataillon, que moi j'aime beaucoup. Et donc de voir qu'une maison d'édition aujourd'hui sortait des inédits de ces gens-là, qui ont malheureusement été oubliés, et qui sont pour moi des auteurs pourtant assez importants, quoi, m'a fait chercher un peu d'autres livres de chez Finitude, et puis j'ai trouvé plein de choses que je trouvais pas ailleurs, quoi. Donc voilà, c'est venu en fait comme ça, tout simplement.
Oui, c'est vrai que Armand, l'un de vos personnages de Demain Berlin, énumère justement certains de vos auteurs favoris, je crois, comme Bov,
Calais, Guérin.
Calais, et sa célèbre phrase « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Donc on voit aussi des affinités, non seulement avec l'éditeur, mais avec vos personnages, peut-être.
Et puis c'est l'esthétique qui me plaît, en fait, de manière générale, quoi. Donc bien sûr, ça transpire, enfin j'espère que ça transpire un petit peu.
Oui. Sur l'objet aussi, peut-être, vous êtes sensible à la qualité
de l'objet. Oui, aussi,
ce
sont vos livres, le papier épais, voilà. Ce qui, en fin de compte, n'est pas donné, quoi, aujourd'hui, de faire des beaux livres, pas très cher.
Exactement.
Bien sûr, c'est important. Et puis, rien que moi c'est l'idée du livre numérique et tout, on pourra en reparler, mais c'est pas un truc qui me plaît a priori. Moi, j'aime vraiment les livres, quoi. J'aime l'odeur des bouquins, j'aime tout ça. Donc, c'est sûr que la couverture, la typo, le papier, ça a une importance décisive.
Et si vous avez droit à un tirage de tête chez Finitude,
vous
choisirez quelle couleur de papier ?
Noir.
Je crois qu'ils ont déjà fait un tirage argenté sur fond noir.
C'est Autain Grenier, regardez.
Donc je me suis posé la question et je ne savais pas moi-même quelle serait la bonne couleur.
Moi non plus. Comme ça.
Voilà. Il y a une certaine ambivalence de ton dans Demain Berlin. Je pense que peut-être vous pouvez en parler.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que on a beaucoup parlé des toxicocrates. Vous-même, vous dites, vous faites dire à un personnage dès le début, il faut fuir les inintoxiqués. Et donc, on a l'impression qu'on va vraiment vivre une saison en enfer, pour parler à la manière de Rimbaud. Or, c'est pas exactement ça. Finalement, on a une certaine tendresse qu'on avait déjà dans Zénith Hôtel. Ce sont des personnages auxquels on s'attache, qui sont très humains.
Moi, deux choses. Déjà, j'aime bien les désaxés, a priori, dans la vie, on va dire, quoi. Ce sont des gens qui m'intéressent. Les gens qui ont des secrets, par rapport aux gens qui n'ont pas de secrets. Et donc, les désaxés, les déclassés, tout ça, les désœuvrés aussi, m'intéressent et me touchent, moi. Et c'est ce que j'aime voir chez les gens, c'est ce que j'aime. Donc, c'est ce que j'aime observer. Donc, c'est ma matière, si vous voulez, pour écrire, quoi. Donc, oui, il y a de la tendresse parce que j'en ai, moi, a priori, par rapport à ces gens-là, quoi. J'ai perdu le fil de votre question.
Oui, c'est-à-dire, il y a une certaine ambivalence. Il y a à la fois côté désabusé, désenchanté, sombre, donc. Et en même temps, du coup, cette espèce de lumière, de tendresse qui éclaire les personnages.
Parlant de ce sujet-là, de la drogue, moi, je voulais pas faire. J'ai pas a priori les clés pour dire on se drogue pour telle raison ou. Et puis de toute façon, ça me regarde pas, c'est pas mon sujet, quoi. Donc en faisant le portrait de trois types qui se retrouvent là-dedans, dans les narcotiques, dans ces jouissances-là, j'ai pas essayé. J'espère pas de ni de donner une légitimité, ni de d'expliquer ça. Ni... Alors, parce qu'il y a tellement façon de le faire, de façon différente de le faire, que voilà, j'ai pas eu envie de dire on se drogue parce qu'on s'ennuie, ou on se drogue parce qu'on est triste, ou voilà, même si il y a, je pense, nécessairement de ça dans ce mouvement. Voilà, j'ai plus essayé de dresser le portrait de trois types qui effectivement se retrouvent là-dedans, ils trouvent différentes choses.
Et peut-être aussi un effet de poésie et de littérature qui l'emporte largement sur un propos qui serait documentaire. Enfin, on ne trouve pas, finalement. De même que dans Zénith Hôtel, on n'avait pas non plus de description pornographique. Ou... Voilà, ouais. On n'est pas du tout sur cet aspect de documentaire, mais beaucoup plus sur la poésie.
Ouais, moi, ça, c'est un truc de... J'aime bien les romans pudiques, quoi. Je sais plus, je disais ça une fois. Et donc, la littérature pudique, oui, il y a ce truc-là. Et l'idée, c'est de faire du romanesque, pas un traité sociologique ou documentaire sur... alors voilà, ça se passe comme ça, exactement. Donc, bien sûr qu'on décrit, parce qu'il faut faire vivre tout ça, et les personnages vivent, et dans des lieux donnés, avec des substances données, avec d'autres personnages, donc il y a des interactions, tout ça. Donc, la description, oui, après... non, oui, moi, j'ai ni une valeur d'explication, ni une valeur documentaire, c'est sûr.
Oui, voilà.
Donc garder ce côté poétique qui, moi, m'intéressait dans ce sujet-là. Je ne voulais pas écrire, moi, au début, là-dessus. Parce que c'est quelque chose que j'ai touché. J'ai habité à Berlin. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais. Et ça m'a marqué. Et pourtant, je ne voulais pas en faire un roman au départ, parce que ça n'aurait pas été, moi, le genre de roman que j'aime lire. Parler de techno, de kétamine et de sexe dans les toilettes, a priori, moi, ça me plaît pas en littérature. Et donc, le pari, ça a été d'essayer de trouver de la poésie là-dedans, quoi. D'essayer de rendre ça joli. Enfin, d'essayer de trouver quelque chose d'une esthétique qui me plaît là-dedans, quoi.
Et donc, on pourrait dire que, comme le rendez-vous des artistes dans les années 20 était le quartier Montparnasse à Paris, aujourd'hui, enfin, à la fin des années 2000, en tout cas, c'était Berlin-Est.
Bah, y a un truc comme ça, de tout le monde y va, parce que, non, mais tout simplement, en fait, parce que c'est très peu cher, et donc, un type qui fait de la peinture peut se permettre d'acheter, de louer, en tout cas, un atelier. Voilà, il y a de la place, on n'a pas besoin de travailler énormément dans des travaux alimentaires, donc ça laisse le temps de créer aussi. En revanche, moi, j'étais quand même vachement déçu, parce qu'en y allant, j'avais cette impression de... c'est le New York des années 80, la Factory, tout ça. En fin de compte, pas tellement. Ça se la coule douce pas mal et ça crée pas tant que ça. Donc, ouais, enfin, moi j'ai pas vu en tout cas un truc si incroyable que ça au niveau artistique, quoi.
Ouais. Et ce qui se dégage aussi de votre prose, c'est l'impression, enfin presque une nostalgie, presque un retour en arrière, alors que ça s'intitule Demain Berlin. On a un petit peu le sentiment qu'on va dans un endroit où le temps s'est arrêté et que justement vos personnages apprécient cette espèce de retour en arrière dans un temps qui est peut-être évolu ailleurs.
Oui, et puis même dans ces fêtes-là, quand le temps n'existe plus, quoi.
Voilà.
Le temps n'a plus d'emprise, et bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils le font aussi d'une certaine manière, parce que d'un coup, on est détaché du monde à un point où, voilà ce que j'ai dit, ouais, le temps n'existe plus, il n'a plus de grippe sur le corps, et donc, voilà, un truc improbable, qui est très beau, je trouve, moi, dans ce truc-là.
Oui, le temps a une très grande place dans ces pages. Déjà le titre, qui est un peu paradoxal, parce que finalement... c'est pas tellement demain, c'est plutôt au jour le jour.
Oui. Ouais. Mais c'est une référence à une chanson que j'aime bien, de Guerre froide, qui s'appelle Demain Berlin, qui est très belle d'ailleurs.
Oui. Ouais. Le post-punk, c'est ça ?
Ouais, voilà, un cold wave. Et c'est cette esthétique-là, justement, du truc très post-industriel, un peu gris et bétonné, qui est l'esthétique de Berlin, quoi. Vraiment, quand on marche dans la rue. Enfin, en tout cas, Berlin-Est. Berlin-Ouest est plus.
Qui porte les marques quand même du mur, enfin.
Bah, d'avant écoutez, le mur, en fait.
Enfin, d'avant la chute du mur.
Oui, mais le mur, moi, enfin, en tout cas, quand j'y habitais, puis les types qui avaient grossièrement mon âge, quoi, entre 20 et 30 ans, c'est comme si le mur n'avait pas existé, quoi. Enfin, en tout cas, on n'y pensait pas. On n'en parlait pas, on n'y pensait pas. Et puis, de temps en temps, bah oui, on voit les traces, les pavés qui sont au sol, et donc on sait que voilà, le mur était là.
Vous êtes né après, quoi.
Voilà, moi, enfin, je suis né, ouais, juste avant la chute, mais donc, Alors, on sentait, moi, de temps en temps, justement, en rencontrant un type qui me dit qu'il avait une quarantaine d'années, « Ah oui, tu viens de Berlin, ouais, mais... » Et puis lui précisait, « Ouais, ouais, mais Berlin-Est, quoi. » Donc là, d'un coup, on se disait, « Ah oui, non, il y a un truc, vraiment, de cette différence-là. » Après, moi, en tant que Français, là-bas, tout, c'est... Non, j'y pensais pas, quoi. En revanche, il y a une vraie différence à Berlin encore aujourd'hui entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Berlin-Ouest a un côté très affaire, qui ressemblerait plus à Munich. Voilà. Donc il y a des grandes rues avec des magasins de luxe ou des grandes rues où on voit rien du tout. Pendant, on peut marcher 20 minutes sans croiser personne ni une voiture. Berlin-Est est plus bohème et plus. Et c'est là où il y a les quartiers plus jeunes, artistiques. Les quartiers de fête aussi sont là. Ouais. Ouais.
Oui.
Moi, j'ai dû aller une fois, deux fois à l'ouest, je crois, en un an. Ouais. Ouais.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de la manière dont les chapitres se tressent et dont les trois personnages, finalement, comme inéluctablement, se retrouvent à Berlin, quoi. Comme s'il y avait une fatalité et qui reflète peut-être aussi, justement, cette convergence des jeunes.
Il y a ce mouvement-là quand même aujourd'hui et depuis quelques années quand même maintenant.
Oui, voilà.
Mais la fuite à Berlin, ouais, et qui est une espèce d'anti-Eldorado, quoi, parce que donc toute l'idée en allant là-bas, c'est pas de je vais faire des affaires, je vais monter une boîte, machin, c'est pas du tout le truc de j'arrive à New York et je refais une vie ou du self-made man. Non, là c'est un côté de, tiens, je vais aller là-bas parce que j'aurai plus besoin de travailler, quoi. Qui moi me plaît beaucoup, c'est le côté situationniste, quoi, de la ville vraiment. Et ce côté-là de la vie coûte moins cher, tout simplement, quoi. Donc on peut avoir un appart décent, on peut vivoter plus facilement qu'ailleurs.
Et enfin, en même temps,
c'est une des seules villes en Europe.
Ça n'a qu'un temps.
C'est un quintant parce que c'est difficile, cette liberté-là aussi.
Et c'est ce qui
structure. Puis d'être désœuvré comme ça.
C'est ce qui structure le roman.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Les saisons et puis aussi
les
chapitres, enfin, quand vous dites le Blum s'en chargera,
allusion
là aussi très littéraire, mais un pari d'autrefois là aussi.
Qu'est-ce qu'il y a, pardon?
Le Blum s'en chargera.
Ouais, j'aime bien.
Oui, voilà. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a des portes qui se referment et qui ne se referme pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on y est finalement
obligé.
Oui,
et puis à un moment, on déchante, quoi. Ouais. En tout cas, les personnages déchantent, pas tous d'ailleurs. Un des trois reste, l'autre se range un peu, et puis le troisième fuit.
Ouais.
Parce que c'est un peu, de toute façon, les seules options qu'on a, quoi. Dans une vie comme ça, à ce point, désaxé, désœuvré. Il y a un moment où soit on reste là et puis on crève sous une boule à facettes quelques années plus tard, soit on s'en va, quoi. Il n'y a pas trop le choix, quoi. Mais... Et en général, ça dure qu'un temps, quoi.
Oui, voilà.
Très peu de gens qui consacrent leur vie à ça. Alors, au moins, il y en a. Hein. Et pourquoi pas, d'ailleurs.
Ouais.
Mais souvent, une prise de conscience de... Oula, ça devient un peu trop moche.
Ce sont les dernières phrases... du roman, qui se sont d'ailleurs prêtés à Armand, qui est le personnage, finalement, qui se révèle le personnage principal, peut-être le plus proche de vous.
Un petit peu, ouais.
Celui qui y revient, quoi, et qui passe à autre chose.
Ouais, ouais.
Et qui se destine peut-être aussi à l'écriture. Enfin, on a plusieurs fois l'impression... Oui, il est peintre. Oui, il est peintre aussi, oui. Mais on voit plus sa prose et ses confidences à son carnet de Moleskine que sa peinture, évidemment.
C'est vrai.
Ouais. Son travail de peintre.
Ouais.
Et donc, c'est par lui que finalement, le fil se boucle. Le fil du roman se boucle, non?
Oui, parce que ça s'arrête à son départ. Enfin, à son retour.
Oui.
Donc à sa fuite, bien sûr. Parce que donc, comme l'autre reste, si vous voulez, il y a aussi le truc de il faut trouver une fin, quoi.
Dans un ça fait. Ouais.
Donc ça peut continuer comme ça pendant
des plans. Justement, il y a une structure dans le roman, c'est ce qui est intéressant. Autant la première partie tresse, tous les trois chapitres on retrouve le même personnage, Tobias, Franz Armand, et puis ça recommence.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et par moments, on a vraiment l'impression que certaines phrases ou même certaines pensées de tel ou tel personnage pourraient très bien être attribuées à un autre. Enfin, j'ai eu cette impression d'interchangeabilité au début.
Mmh, mmh. Ils ont des histoires différentes, ils viennent de milieux différents, ils ont des nationalités différentes, même un âge un peu différent.
Mais les sensations, par exemple, quand ils arrivent à Berlin, quand chacun d'eux arrive à Berlin, c'est presque les mêmes.
Oui, parce que, et c'est d'ailleurs pourquoi ils se retrouvent, eux, là-bas, il y a cette affinité-là. Ils se retrouvent dans leur...
Dans le neuf.
Dans leur mélancolie, dans leur...
Et en même temps, dans ce désir de l'inconnu, du neuf.
Oui, ils arrivent tous à Berlin pour une espèce de nouveau départ.
Oui, c'est ça. Ouais. Pour fuir quelque chose aussi.
Oui, bien sûr.
Notamment des femmes, un amour.
Ouais.
Alors les femmes, elles sont plutôt en creux dans le...
Vous trouvez ?
En roman, je trouve, oui. Elles font pas partie du trio.
Non, elles font pas partie du trio, hommes. Mais en même temps, elles peuvent décider de.
Voilà,
de,
oui,
de
voilà.
Beaucoup de
elles jouent. Parce que j'en
parlais à une fille, qui me posait des questions dessus et qui trouvait que je donnais une image terrible des femmes et tout. Et moi, j'ai l'impression que les portraits sont très tendres. Et, voilà, alors peut-être que je l'ai mal fait, c'est autre chose, mais j'ai en tout cas pas voulu donner une mauvaise image de ça, au contraire.
En tout cas, la douleur de l'amour
joue un rôle dans cette fuite
à Berlin.
Bien sûr,
C'est très...
Ça joue un rôle souvent dans la vie, non ?
Exactement.
Oui,
il y a une grande justesse. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on lit votre roman à 60 ans, de se demander comment on peut avoir cette justesse à 20 ans ou à 24 ans. Mais bon...
Parce qu'on vit la même chose.
Sans doute.
Non, c'est gentil.
Les personnages se réfugient à Berlin, mais ils se réfugient aussi dans les paradis artificiels, on va dire.
Ouais.
C'est le décor.
Ouais. Le décor, autant que Berlin, c'est cette scène-là de Berlin. Ouais.
Mais ce sont des choses que vous avez déjà décrites à Paris, un petit peu aussi.
Un petit peu, oui, parce que c'est. On devient rarement comme ça sous prétexte qu'on arrive à Berlin alors qu'on n'était pas du tout dans cette ville-là avant parce qu'on peut mener une vie de toxico à Dijon comme à Berlin. Après, il y a les structures qui font que c'est telle scène ou telle autre, mais c'est pas une particularité de la ville.
Oui, voilà. Ouais. Donc ça pose aussi la question du lieu, quoi. On revient à cette spécificité de Berlin qui
après,
tient à autre chose finalement
qu'au Bois de Nuit. Oui, mais qui sont liés en fait, parce que la scène des boîtes de nuit à Berlin est une scène qui fonctionne avec ces drogues-là, parce que c'est une musique qui ne peut se vivre à ce point, je pense, qu'accompagné de certaines substances. Ce sont des lieux qui sont ouverts du vendredi au lundi matin. Il y a un moment où si on n'a pas de béquilles chimiques,
on s'endort.
On ne tient pas 3 jours à danser. C'est physiologiquement pas possible. Donc, tout est créé quand même autour de ça. C'est un peu fait. C'est fait pour ça, parce qu'en fait, il y a tout un truc de commerce et tout dont on parle pas, mais c'est quand même une énorme industrie là-bas. Même si elle se donne un côté, on va dire, un peu fait de briquet de broc, et ouais, on a monté une boîte, machin, ça reste un truc où il y a quand même énormément d'argent en jeu. Après, c'est pas mon sujet, mais ce sont des scènes qui sont liées, comme la scène hippie est liée au LSD, c'est parce que c'est ça qui aussi guide toute cette esthétique-là, pourquoi la musique et la techno va être une musique très répétitive, parce que les substances qui vont avec rendent ces sensations-là aussi. Je pense que c'est lié, mais comme dans pas mal de mouvements culturels, en fin de compte. Enfin, en tout cas, du XXe siècle. Quoi.
Oui. Ouais. Alors, on a dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'objectif documentaire. Néanmoins, quand on n'appartient pas à votre génération, on a vraiment l'impression de découvrir un univers. L'univers de cette génération-là, justement. Et ça, c'était délibéré
par rapport à Zénith Hôtel, où justement j'ai essayé de fuir un peu ce côté-là de ma génération, parce que ce que je disais tout à l'heure, esthétiquement, moi, a priori, c'est pas ce qui me plaît. J'ai pas envie de parler de Facebook, j'ai pas envie de parler de Twitter, ni de blog ou machin. Ça me plaît pas. Et pourtant, je le fais, moi aussi, je suis sur Facebook. Et c'est en me rendant compte que je pouvais le faire et y trouver justement un peu de poésie, parce que ça peut être très beau, un échange de mails sur Facebook, un échange de textos avec une fille peut avoir une saveur incroyable, même si moi, a priori, bah, je trouve ça plus chouette de glisser un billet et puis de s'envoyer des lettres. Bon, voilà, on le fait pas, on le fait plus. Non, on envoie des mails et voilà. Et donc, et pourtant, il peut y avoir de la beauté là-dedans. Et donc, l'idée, c'était de faire ressortir cette beauté-là, qui, je trouve, n'est pas évidente. Alors, après, c'est un débat. Moi, ma sensibilité par rapport à ça fait que non, j'y trouve pas de beauté a priori. Donc, il faut creuser un peu et essayer de la faire sortir. Quoi.
Comme Baudelaire, quand il écrit Les Fleurs du Mal. La modernité.
Ouais. Bah, de toute façon, c'est important. Parce qu'on n'a pas le choix quand on vit avec notre époque. Et je sais plus, mais je me souviens plus de qui disait ça. Et
pourtant, il faut être moderne, c'est Rimbaud.
Pas ça, mais le qui met sa main dans la roue du temps, se fait arracher le bras. Ouais.
Oui. Ça fait très chinois comme phrase.
Et non, je crois que c'est un suédois, je sais plus. Mais donc il y a un truc comme ça. Bon, là, de toute façon, on n'a pas le choix, on vit avec notre temps, quoi. Donc bon, essayons d'y trouver quelque chose. C'est un peu le pari. Et puis, on lit Proust qui parle du téléphone, c'est incroyable. Et pourtant, je suis sûr que moi à l'époque, j'aurais été le téléphone, c'est horrible. Donc on va arrêter d'aller se voir parce qu'on va se téléphoner. Et non, et puis en fait, il y a les opératrices, il y a tout ça. Il y a un truc qui se joue dans toutes les inventions de communication. On peut trouver quelque chose de chouette là-dedans. Je pense.
Oui, et du coup, on a un style avec des phrases qui vont droit au but, qui décrivent ce qu'il y a à décrire et qui n'est pas toujours facile à regarder. Hein. Mais on a aussi des effets de vocabulaire entre le très contemporain, qui est aminé, par exemple, et puis des mots beaucoup plus précieux, presque tirés du 19e siècle.
Après, moi, c'est mon truc, encore une fois. Moi, j'aime bien tout ce lexique-là, ça me plaît bien. Ouais. J'aime bien le lire, j'aime bien l'écrire.
Et ça fait l'originalité aussi, le roman.
Bah oui, et puis voilà, comme moi je suis pas pétri de littérature contemporaine, je réfléchis pas en écrivant dans ce style-là, si vous voulez. Ça me vient pas naturellement. Donc en fait, j'ai pas même pas fait d'effort pour essayer d'avoir un style désuet. Non, c'est comme ça que moi je pense le truc et que je l'écris dans la foulée. Donc voilà, parce que encore une fois, c'est cette esthétique-là qui me plaît en littérature. Après, il y a certains mots. Je parle de kétamine. Bon, bah non, oui, ça peut pas être désuet puisque c'est un truc récent, quoi.
Voilà.
Et je voulais pas écrire, non, surtout pas. Non, ça m'intéresse pas d'écrire comme si j'écrivais un texto. Non, ouais, c'est sûr. On fait un bouquin comme ça, le but, c'est d'essayer de chiader un petit peu ça, quoi.
Et en même temps, on est dans des phrases courtes aussi, qui donnent une vitesse au texte. On parlait de Proust tout à l'heure, c'est pas tout à fait le rythme proustien.
Non, j'aimerais bien, mais...
Non, mais vous avez fait des choix, justement, qui vont aussi avec le thème et avec l'époque.
Oui, c'est un roman court, assez rapide, et donc le style... avec.
Puis il y a des cuts, on a l'impression aussi que le montage cinématographique intervient peut-être aussi, non, dans votre écriture.
Vous trouvez, je ne sais pas.
Oui, parce qu'on passe comme ça d'un lieu à un autre.
Oui, mais ça peut être une ellipse.
Sans transition.
Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas pensé. Je sais qu'il y a plein de personnes qui, en écrivant, voient le truc, les images et tout.
Votre imagination n'est pas cinématographique.
Non, j'ai pas ce truc-là. Je vais penser à une phrase, à un mot, avant de penser à une image et donc essayer de la décrire. Chacun travaille comme il le peut, je crois. Mais non, moi, c'est... Non, j'ai pas ce truc... En revanche, j'en parlais hier, mais voir des films... m'incite plus à écrire qu'à lire. C'est assez étrange. Les phases où je vois plein de films, j'écris beaucoup plus.
D'accord.
Que quand je lis juste.
D'accord. Ouais. Il y a aussi... on a parlé du rapport au temps, un petit peu paradoxal. Il y a aussi un rapport à la mort qui est très présent, qui fait partie du côté sombre, on va dire.
Oui, parce qu'il y a ce truc-là. C'est présent quand même. Non, c'est assez fort.
Oui, c'est l'éditeur Finitude. Mais aussi la question au centre, je crois, de son catalogue.
C'est une question centrale quand même. Non.
Alors après, et du coup, quoi faire de sa vie, quoi ? C'est une question lancinante.
Chez
ces jeunes hommes.
Il y a ça qui arrive, qu'on peut provoquer ou non, qu'on peut s'en rapprocher le plus vite possible ou au contraire essayer de l'éloigner. Mais bien sûr que c'est... Je sais pas, depuis qu'on est souvent quand même, mais je vois même des tout petits enfants, il y a tout ce truc métaphysique normal, en fait, qui est à l'origine de beaucoup de choses, pourquoi on s'ennuie, pourquoi on est triste, j'en sais rien, j'ai pas ces réponses-là, mais...
La fatigue de vivre aussi, vous l'évoquez, très vite, et du coup, la drogue qui permet de ne plus ressentir cette fatigue de vivre.
Ça peut être une des solutions. Rigaud, je lisais un truc sur Rigaud là aujourd'hui, donc qui est le héros en fait. Enfin, on en a fait, Drieu en a, et puis Louis Malle en ont fait le héros du Feu Follet. Mais donc, qui est un type qui était un des premiers dada, il s'est suicidé à 30 ans, et lui, je pense, s'est drogué. En tout cas, dans les 10-15 dernières années de sa vie, quand on a 30 ans, ça fait quand même pas mal. Je pense pas pour justement éviter de mourir, mais c'est peut-être que sans ça, il aurait pas pu tenir jusqu'à ses 30 ans. Est-ce qu'il y a le cas de certaines personnes où il y a un truc comme ça, qui n'est pas le cas de tous les personnages, qui est un peu le cas de Tobias. Oui, on peut avoir besoin, parce qu'on a besoin d'oublier, tout simplement, quoi. Et c'est putain, sans oubli. Alors, l'oubli n'est pas nécessairement provoqué par telle ou telle substance, mais c'est vrai que sans oubli, c'est terrible. Vivre sans oubli, c'est un calvaire, quoi.
Oui, surtout lui, vu le destin, l'enfance tragique que vous lui prêtez. C'est lui qui ouvre la première partie, et c'est vraiment son cas qui relève du fait divers et qui est le plus sombre, on va dire. Et du coup, on a l'impression que les personnages sont à la recherche des autres quand même, même s'ils ont un rapport difficile avec le réel, avec la vie et la mort.
Oui, parce qu'a priori, ils sont tous des solitaires, qui en tout cas peuvent se complaire dans leur solitude, mais en même temps, ils ont besoin de l'autre. Et tout simplement parce qu'on a besoin de l'autre pour exister, quoi. Et comment est-ce qu'on pourrait exister sans le regard de quelqu'un d'autre, si personne ne nous voit, est-ce qu'on est là effectivement? Non, je pense pas. Donc oui, et même les plus grands solitaires vont rechercher un moment cette médiation, quoi, entre soi et soi-même, quoi.
Oui, mais là aussi il y a le paradoxe, on cherche un cercle de quelques autres avec lesquels on va s'isoler des autres.
C'est le côté de la famille. En gros, ce qui les réunit aussi, les trois, c'est qu'ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas d'appartenance sociale, a priori. Donc, ils se retrouvent parmi ces gens-là qui, eux non plus, n'ont pas d'appartenance sociale.
Oui, voilà. Donc, il y a une sorte de toxicocratie, donc de cercle.
Il y a un cercle, bien sûr. Il y a un cercle qui exclut aussi ceux qui n'en sont pas parce qu'ils consomment pas ou parce que... il y a un truc. C'est un espèce de cercle privé. Ouais.
Oui, c'est ça. Et donc là aussi, celui qui ne fait pas partie du cercle, grâce à ce roman, peut quand même le pénétrer un petit peu, sans faire une idée, ou avoir l'impression qu'il...
C'était l'idée,
qu'il le découvre.
Ouais,
c'était ça, l'idée. En tout cas, ça fonctionne bien avec le choix des lecteurs.
Oui, ça ne s'adresse pas nécessairement aux initiés, non. Mais même si, quand on parle d'un sujet, un initié va y retrouver peut-être des détails que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds pourra pas retrouver, c'est évident. Après, non, j'ai pas voulu écrire en me disant tiens, je vais être lu que par les personnes qui sont des gens qui lisent pas beaucoup, donc c'est vrai, ou alors qui lisent énormément,
temps, c'est pas du tout une apologie de la drogue, puisque on sent très très vite que ce cercle est fondé sur une illusion, quoi, en fait. La croyance, vous dites par exemple, page 10, ce petit cercle, le monde clos de ceux qui croient vivre plus fort. Et la fin du roman montre aussi que il faut s'en sortir, quoi, pour se colter quand même avec le réel.
Alors je sais pas s'il faut s'en sortir, mais après il y a souvent ce truc-là d'instinct de conservation, quoi.
Mais vous employez quand même souvent cette expression, l'obligation de, il faut, on n'a pas le choix. Ça revient.
Il faut s'en sortir. Non.
Oui, il faut être moderne, il faut s'en sortir.
Ah bah oui, bah après ça c'est des
accepter son temps.
C'est des préceptes de, enfin des préceptes, je sais pas, mais des espèces de lignes directrices de vie tout simplement. Oui. Quoi.
Mais surtout.
Alors après,
sortir d'une illusion. On a vraiment cette impression là. C'est pas du tout un roman pour défendre, encore une fois, des paradis artificiels, mais au contraire.
Non, c'est pas une apologie, mais c'est pas une critique de la drogue non plus.
C'est vraiment comme une saison en enfer, on y descend, on l'explore, mais on en sort.
Ouais. Ou on n'en sort pas.
Ou on n'en sort pas.
Parce qu'en fin de compte, il y en a qu'un qui en sort.
Oui, il y en a qu'un, ouais, effectivement.
Un sur trois. Ouais. Après, non, c'est pas une apologie de la drogue.
Alors, vous êtes très jeune, mais vous n'êtes pas un jeune auteur, puisque vous avez déjà, pour votre premier roman, été reconnu à travers le prix de Flore. Ouais. Quel effet vous a fait cette reconnaissance très, très précoce?
C'était assez inattendu. Déjà, moi, rien que de... ce qui est assez bizarre, c'est que maintenant, ça me paraît normal d'écrire des livres et qu'ils soient publiés et tout, alors que j'en ai fait que deux. Et que... mais déjà, je vois, il y a... Celui-là est sorti en mars 2012, le premier. Et bah oui, c'est vrai qu'avant, moi, tout le truc, c'était de... J'espère qu'un jour, j'éditerai un livre. Ouais. Donc, c'est pas du tout le premier manuscrit que j'ai envoyé. Donc déjà, rien que le fait que ça devienne un livre, c'était un truc incroyable. Machin. Et ça, c'était plus fort, en fin de compte, que le prix de plan. Et le prix, non, en revanche, c'était assez inattendu, quoi.
Est-ce que
déjà
avez...
dans la sélection, je disais, voilà. qu'est-ce que tu fous là?
Est-ce que là aussi, vous avez eu l'impression d'entrer dans un cercle?
J'espère pas. Non, non aussi, c'est, moi je les côtoie pas, je peux les croiser, je peux croiser certains. J'ai pas envie de traîner moi avec des gens qui écrivent parce que c'est une très mauvaise compagnie, souvent. Les écrivains. Non, mais c'est vrai, je trouve ça. Je pense pas être rentré dans un cercle. Après, il y a un milieu donné, des gens qu'on rencontre, et voilà, oui, c'est sûr. Mais,
En revanche, chez Finitude, vous vous êtes trouvé une famille quand
ah
même.
Ah là, ouais.
C'est assez net, puisqu'il y a des petits clins d'œil aussi. Au fil de Main Berlin. J'ai noté qu'en France, où Jérôme, je ne sais plus, se fait arrêter. Je dis même 86.
Oui,
c'est un petit clin d'œil au catalogue Finitude.
Il y a des clins d'œil à Martinet aussi.
Oui, voilà.
Qui sont le catalogue Finitude. Ouais.
Donc vous resterez sans doute fidèle à Finitude pour le prochain roman.
Ouais. Et si je dis non? Ah non, certainement pas. Jamais.
J'abuse un peu, je profite de la situation. Là.
Non, mais je lis très très mal à voix haute. Et. Déjà, des textes qui sont pas les miens, c'est un calvaire. Je les massacre, en fait. Donc ça vaudrait pas le coup, ça serait vraiment pas bien. Et puis en plus, ça me gêne vachement. je suis désolé. Si vous voulez, allez-y. C'est le seul truc que...
Je choisis l'arrivée de Tobias, si vous voulez, puisque c'est le personnage par lequel on entre dans le roman. Donc
c'est un des trois personnages.
Voilà,
c'est le premier à arriver à Berlin. Où les deux autres vont le rencontrer un peu plus tard.
Voilà, donc au chapitre 13, hein, page 66. Pour la première fois, Tobias arrivait seul dans une ville nouvelle. Il ne connaissait personne. Il ne pouvait pas se servir de l'appartement de sa mère, de l'appartement de sa sœur, comme point d'ancrage. Non. Seulement le 72D, sur Schönhauser Allee, un petit F2 bien impersonnel, témoin de sa solitude. Mais parce qu'il était vraiment seul, parce que les visages autour de lui n'avaient pas de regard, il n'en éprouvait pas la sensation. Le moindre geste avait une saveur particulière puisque c'était la première fois qu'il l'accomplissait. Son dépaysement l'occupait. Il ne savait pas quoi acheter dans les supermarchés. Il ne savait pas comment s'y prendre avec les tickets de métro. Il était comme étranger au pacte de la ville. Il devait en découvrir les usages. Alors, il marchait, les yeux ouverts, pour essayer de comprendre, pour se fondre dans l'indifférence. Il tenait comme un petit répertoire des façons de faire, puisqu'ici on ne traverse pas quand le bonhomme est rouge, puisqu'il ne faut pas marcher sur les pistes cyclables. Il retrouvait la langue de son enfance avec plus de facilité qu'il ne l'aurait cru. Quand il ne travaillait pas, il sillonnait les rues et les tunnels du U-Bahn. Il visitait les musées et les monuments, de temps en temps il entrait dans un cinéma. Il aimait sa condition d'homme en découverte. Il marchait sans y penser, puisqu'il fallait comprendre, puisqu'il fallait surtout créer des habitudes tout autour de soi. C'est peut-être pour cela qu'il s'est remis à fumer, pour aller tous les jours au même kiosque, pour que le vieil homme turc qui tenait la boutique saisisse le paquet de Nil bleu derrière lui, sans même que Tobias ait besoin de lui demander.